question. J'avais sur mon cœur un message pour vous, et durant le culte, le Seigneur m'a donné une autre parole. Et cette parole me semble correspondre à l'esprit qui se manifestait dans le culte. Et je veux être assez souple dans la main du Seigneur pour simplement que nous continuions ce qui nous a été souligné dans ce culte. Notre frère a lu dans le chapitre 52 d'Ésaïe le verset 6e, et il nous a dit que il l'avait reçu dans la semaine qui vient de s'écouler comme si le Seigneur lui avait parlé à lui directement. Je relis ce texte, chapitre 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. On a dit que ce jour, le 13 mai, était le jour de la fête des mères. Ma femme n'aime pas beaucoup cette expression, le jour de la fête des mères, parce qu'elle dit, et je crois qu'elle le dit avec raison, que les enfants devraient considérer tous les jours comme étant la fête des mères. C'est tous les jours qu'il faut honorer sa mère. C'est tous les jours qu'il faut lui obéir et lui manifester notre amour. Parce que le grand danger avec ces fêtes instituées par le monde, c'est de commercialiser qui devrait être quelque chose d'habituel. Et dans son bureau, dans son cabinet, ma femme souffre beaucoup, comme médecin, d'entendre des femmes dire que leurs enfants viennent les voir qu'une fois par année, la fête des mères. Ça, on ne peut pas oublier. Peut-être que c'est une bonne chose qu'il y ait au moins une fois par année des enfants qui viennent voir leur maman. Mais je crois que quand on est né de nouveau, comme l'a souligné Josaphat, et qu'on se souvient de notre mère qui nous a donné le jour, bien, on aime à témoigner à notre mère, les sentiments de notre cœur, ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Car quand on est né de nouveau, ce qui s'est passé, ce n'est plus nous qui vivons avec notre égoïsme, avec notre esprit oublieux, mais c'est Jésus qui vit en nous. Et c'est lui qui imprègne toute notre existence, des sentiments qui étaient dans son cœur. Et vous savez ce que Jésus a été, et pour son Père céleste, mais aussi ce qu'il a été pour ses parents terrestres, sa mère et Joseph, qui était connu comme son père, c'est-à-dire celui qui était chargé de cette éducation, de cet enfant qui n'avait pas été conçu à la manière des autres hommes, mais réellement conçu du Saint-Esprit. Mais il fallait pourtant un père. Eh bien, Jésus, en tant qu'enfant, il est dit qu'il était soumis à ses parents et qu'il obéissait et qu'il grandissait en faveur devant Dieu et devant les hommes. Ce 13 mai, oui, a été arrêté comme étant la fête des mères, mais je voudrais vous faire remarquer que ce 13 mai, c'est le 21e jour après l'Ascension. Le 21e jour après Pâques. Et le 19e jour avant l'Ascension. Nous sommes donc dans cette période de 40 jours où Jésus ressuscité a été vu par ses disciples, leur a donné toutes les preuves assurées de la réalité de sa résurrection et leur a donné aussi ses derniers ordres avant de retourner dans la gloire. Et nous aurons l'occasion de vous parler de ce sujet, Dieu voulant, dans cette fin de semaine, que je voudrais que ceux qui participeront au temps sidérologue la conçoivent, cette fin de semaine, non pas comme une corvée, mais comme un service volontaire. Un service que vous accomplirez avec joie, même si certaines femmes doivent laisser partir leur mari, elles seront à l'arrière pour prier pour eux. Et les autres qui pourront venir aussi, les femmes, nos sœurs, servir, trouveront en effet toute une occupation à la gloire, certainement du Seigneur. Parce que travailler en vue du bien des autres, en vue de ce temps de famille, en vue des autres temps, qui se réuniront à Sidorloge, c'est travailler vraiment pour le Seigneur. Alors que ce soit vraiment un service volontaire et un service fait avec joie. Et nous sommes heureux vraiment de savoir que le Seigneur a pourvu à tout. Car s'il nous demande une tâche matérielle, il subvient aussi à nos besoins, qu'ils soient physiques et qu'ils soient spirituels. Bien, nous espérons que cette fin de semaine sera une fin de semaine où il n'y aura pas seulement de la sueur qui tombera de vos fronts, mais où il y aura aussi une rosée spirituelle, une rosée de bénédiction, vous renouvelant, vous qui avez voulu donner au Seigneur ce temps. Maintenant, mes bien-aimés, je reviens à ce verset qui nous a été lu. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Est-ce que nous connaissons le nom du Seigneur? Ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom que voulait connaître Jacob quand il luttait avec l'ange et qu'il s'est senti soudainement vaincu et qu'il s'accroche à l'ange quand sa hanche est déboîtée, lui qui avait mis tous ses efforts pour vaincre cet homme inconnu qu'il croyait être un ennemi. Tout à coup, quand il voit qu'il n'aura pas le dessus, au lieu de continuer de lutter et de le considérer comme un ennemi, il s'accroche à lui et puis il lui dit « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » Au lieu de le prendre comme ennemi, il le prend maintenant comme son secours. Et c'est ce qui doit nous arriver. La plupart du temps, quand nous avons des luttes, des combats, nous y allons, nous voulons vaincre nous-mêmes nos difficultés, et puis nous nous épuisons. Et puis, il arrive un moment où, réellement, nous n'en pouvons plus, et c'est à ce moment-là qu'au lieu de lutter contre les circonstances qui veut dire souvent lutter contre Dieu, on s'attend à Dieu. Et nous avons à ce moment-là la délivrance. La délivrance chez Jacob, il l'a eue immédiatement au moment où il a fait ses visées, où il s'est accroché à celui qu'il croyait être son ennemi. Et il demande, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il n'a pas reçu la réponse. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Je laisse cela dans le chapitre 32 du livre de la Genèse pour ceux qui voudraient méditer sur ce passage. Jacob désirait connaître le nom de celui avec lequel il avait lutté. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il n'a pas la révélation, comme. Mais il a la bénédiction. Et il a dit, et il le bénit là. Et il le bénit là. Jacob appela, verset 30, ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Et désormais, Jacob, boitant, continuera sa course. Mais sa vie est transformée. Du reste, Dieu lui a donné à lui un autre nom. Tu ne seras plus Jacob le supplanteur, mais tu seras appelé Israël le vainqueur de Dieu. Mes amis, comment est-ce qu'on a la victoire dans notre vie? Ce n'est pas en luttant par nos propres forces, vous vous épuisez, c'est en vous abandonnant. Oh, que ce 13 mai soit le jour où vous vous abandonnez, le jour où vous commencez à connaître son nom. Voici mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi. Jacob a compris. Même s'il n'a pas encore la révélation de ce nom, il a compris que c'était Dieu. Parce qu'il dit, j'ai vu Dieu. Face à face. Et mon âme a été délivrée. J'ai vu Dieu face à face. Voulez-vous voir Dieu face à face? Vous ne connaîtrez pas tout. Mais votre âme sera délivrée. Si on pourrait continuer dans cette même veine en vous rappelant des êtres qui ont demandé à connaître le nom du Seigneur qui leur apparaissait, je pense à Manoah et à sa femme, une mère justement, qui sera la mère de Samson. Et quand, dans le livre des Juges, au chapitre 13, Manoah apprend que sa femme a été visitée par un être céleste qui lui a dit, tu seras enceinte, tu auras un fils, Manoah prie pour que cet être qui est venu visiter sa femme en revienne, afin que cet ange puisse leur dire, leur enseigner comment ils devaient élever cet enfant, parce que la femme de Manoah avait reçu cette promesse, tu auras un enfant, tu auras un enfant. Et Manoah accepte. Mais comment élever cet enfant? Eh bien, on prie. Et puis voilà que Dieu répond. Et l'ange du Seigneur revient une seconde fois. Elle leur indique ce qu'ils auront à faire pour cet enfant qui vient de Dieu. Et tout à coup, Manoah s'écrie,
Quel est ton nom?
Et vous savez la réponse. Pourquoi je nomme-t-il mon nom? Et là, il y a une chose de plus que chez Jacob. Il est
merveilleux.
Il est merveilleux. Ah, si vous désirez connaître son nom, eh bien, vous apprendrez à connaître qu'il est merveilleux. Et voyez-vous, le Seigneur n'a qu'un désir, c'est de se révéler à nos âmes. Et je demande que ce 13 mai soit une date pour vous, définitive, non pas seulement la fête des mères, mais le jour de votre décision réelle dans votre cœur pour le Seigneur Jésus, et que tout le reste soit balayé pour que vous puissiez faire la volonté du Seigneur. C'est pourquoi il saura en ce jour, oui, en ce jour, 13 mai, il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Vous êtes peut-être venu parce que, oui, il y a un prédicateur qui vous visite. Non, je sais bien que ce n'est pas venu pour cela. J'ai entendu ce matin. Vous n'êtes pas venu pour écouter un homme. Vous êtes venu pour vous souvenir du nom du Seigneur. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, et devant lequel un jour se ploiera tout genou des célestes, terrestres et infernaux, toute langue confessant que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous êtes venu pour vous souvenir du Seigneur Jésus, comme cela a été dit dans les prières pour annoncer sa mort, mais aussi pour vous souvenir que ce Seigneur mort le vendredi saint est un Seigneur vivant. Il est vivant. Le matin de Pâques, la grande pierre scellée a été roulée et Jésus est sorti vivant de la mort. Et il a donné toutes les preuves assurées de sa résurrection. Il a vécu 40 jours avec ses disciples. Ce sont des faits historiques et nous allons maintenant, dans 19 jours, nous rappeler de l'ascension qui est un fait historique. Jésus, dans son corps de résurrection, son corps déjà glorifié, a été vu montant dans le ciel, où son chariot l'attendait. Quel chariot? Il a un char, psaume 104, lisez ce psaume. Un char l'attendait, et quel est ce char? Le char du Seigneur, que vous retrouvez à travers toute la Bible. Verset 3, du psaume 104, il forme avec les eaux le faîte de sa demeure, il prend les nuées pour son char. Il prend les nuées pour son char. Et ce jour de l'ascension, quand les disciples regardaient le Seigneur s'en aller, qu'est-ce qu'il a dit? Une nuée le reçut. Le char de l'Éternel était là pour le transporter dans cette gloire d'où il était venu, d'où il était descendu. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Alors, à ce texte que notre frère a lu, je voudrais en lier quelques autres afin que vous ayez une nourriture spirituelle bien profonde dans la semaine. Chapitre 58 d'Ésaïe. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies.
comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ah, il y a de l'intérêt. Il y a une foule de gens qui voudraient bien entendre parler du Seigneur. On viendra à des réunions d'évangélisation, certainement on viendra dans cette campagne qui se prépare. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde dans cette campagne. Il y en a certainement même qui jeûnent et qui disent, mais au fond, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas toute la bénédiction que l'on voudrait? Le Seigneur répond, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Est-ce que ce n'est pas encore un peu comme ça que nous agissons? Nous voulons faire des réunions, nous voulons agrandir nos églises, mais le Seigneur a quelque chose à nous dire. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. C'est pas moi qui parle, hein. Le Seigneur a dit ce matin, me voici en ce jour-là. C'est pourquoi en ce jour-là, il saura que c'est moi qui parle. Me voici. Je reviens au verset 4. Vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendu en haut, parce que vous devriez avoir une réponse à vos prières. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Et écoutez ce qu'il vous dit. C'est lui qui parle. Vous voulez que quelque chose change? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, vous voyez que les pensées de Dieu ne sont pas toujours nos pensées. Nous, on pense que je n'ai pour prendre certaines attitudes. Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui lui appartienne. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras, et l'Éternel répondra, tu crieras, et il dira, c'était là que je voulais en venir, mais je voulais laisser ces versets dans le contexte. Tu crieras, et il dira, du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. C'est toujours de notre côté. Mais si nous prenons Dieu au sérieux, et si nous lui disons, Seigneur, nous allons nous laisser faire par toi, fais avec nous ce que tu veux, dispose de nous, eh bien, vous verrez la main du Seigneur opérer. En ce jour-là, tu sauras que c'est moi qui parle. Et qui te dit, me voici, bien oui, ici dans le chapitre 58, le me voici est donné à ceux qui ont compris ce qu'est un vrai jeûne. Ne plus se livrer à nos propres penchants. Qu'est-ce qui nous retient encore? Nous avons encore trop de force. Nous pensons que nous pouvons encore lutter. Nous sommes des Jacob qui ne sont pas encore épuisés. Alors est-ce qu'il faudra que notre ange soit luxé pour que tout à coup, nous sentant défaillir, nous nous accrochions à lui? Seigneur, quel est ton nom?
et le bénira. Est-ce qu'il faut, pour que nous ayons la bénédiction des bénédictions qu'il voudrait nous donner, que nous ayons une grande épreuve? Que le Seigneur nous entende. Mais je voudrais souligner ceci. C'est que si le Seigneur est prêt à vous dire « me voici », il voudrait que vous aussi, vous soyez prêts à lui répondre « me voici ». Du côté de Dieu, pas d'obstacle. Il vous dit « me voici ». Maintenant, je prends et vous méditerez vous-même, je vous cite simplement quelques hommes qui ont été visités par Dieu. Vous voudriez être visité par Dieu. Il peut nous visiter à tout âge. Vous connaissez quand même la parole. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham, qui a vécu assez longtemps, 175 ans, et un jour, Dieu a parlé à cet Abraham. Il avait parlé déjà plusieurs fois au cours de son existence. Il avait 75 ans quand Dieu, pour la première fois, lui a parlé. Je ne sais pas quel âge vous avez. Mais Abraham, lui, il était parmi les païens. Il avait 75 ans. Il était marié. Il n'avait pas d'enfant. Il avait un neveu qui avait perdu son père. Il avait 75 ans. Et tout à coup, Dieu lui parle. Sors de ton pays, de ta parenté, pour aller dans le pays que je te montrerai. Et Abraham obéit. Et il va, ne sachant trop où il allait. Mais étape par étape, il poursuit sa route et le Seigneur est toujours là, jamais en retard. Et le Seigneur continue à lui apparaître. Il lui fait même une promesse. Il lui dit qu'il aurait un fils. C'est un peu tard à 75 ans. Et puis même ce fils, il ne viendra qu'à quel moment? Quand il aura 100 ans. Ils devront se attendre 25 ans. Et quand il aura 100 ans et que sa femme en a 90, alors le fils vient. Eh bien, il a encore 75 ans à vivre avec son fils. C'est quelque chose. Alors le fils a grandi. Et je pense que le fils pouvait avoir 17, 18 ans. Quand tout à coup, Dieu, une certaine nuit, lui parle de nouveau. Abraham, Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit? Me voici. Oh, on aime bien que Dieu nous parle. Hein? Me voici. Chapitre 22 de la Genèse. Me voici. Viens. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va le sacrifier sur la montagne de Morija, qui est à 3 jours de là. Il habitait Beersheba. Nous voudrions que Dieu nous parle, mais attention, qu'est-ce qu'il peut nous demander? Abraham a répondu, me voici. Et Abraham a obéi. Et ne pensez pas que c'est un petit enfant. Quelle est la preuve que j'ai que ce n'était pas un petit enfant? C'était déjà un adolescent et même peut-être un jeune homme. Hmm? Et il lui charge, il lui met le voile sur lui. Donc c'est un bébé qui peut porter du bois. C'est un petit enfant qu'on charge de tout le bois de l'Holocauste. C'est déjà un costaud. C'est déjà un gars qui peut comprendre. Et même il comprend tellement qu'il dit à son père, écoute, c'est tellement beau ça, hein? Il parle avec son père, ils vont ensemble. Il dit, il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac ne sait pas que c'est lui qui sera offert. Où est l'agneau? Et dans ces 3 jours de marche de Beersheba au mont Morija à Jérusalem, Abraham prie. Abraham ne comprend pas les voies de Dieu, mais pourquoi? J'ai attendu jusqu'à 100 ans pour être exaucé. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant. C'est Dieu qui me dit que en lui, toutes les nations de la terre seraient bénies dans la postérité de cet Isaac. Puis maintenant, il me le demande. Ah, l'épreuve de la foi. Quand on veut marcher avec Dieu, quand on veut vraiment l'écouter, quand on veut vraiment l'entendre, il y aura des épreuves. Mais il y aura des délivrances proportionnées à ces épreuves. Tout à coup, au moment
où il a pu convaincre Isaac qui aurait pu se battre avec son père, mais qui se laisse faire. Voilà un Isaac aussi, qui, malgré qu'il voit dans le regard de son père une détresse immense, eh bien, comprend que son père doit faire la volonté de Dieu. Dieu lui a dit cela, et Isaac se laisse lier sur l'autel. Solide, direz-vous. Il se laisse lier, il n'y a pas de combat entre le père et le fils. Il est là sur l'autel. Puis Abraham lève le bras. C'est le bras de l'Éternel qui l'arrête. Abraham, Abraham. Voici. Et me voici, là tout près. Voici. Je connais maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils. Puis il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Dans un buisson, un agneau est là, retenu par les cornes. Et tout à coup, lui qui avait dit « Le Seigneur se pourvoira de l'agneau », est-ce qu'il y croyait? Il n'avait pas eu la vision du buisson, il ne savait pas. La foi, ce n'est pas la vue, on marche dans la foi, comment est-ce que Dieu va s'y prendre? Eh bien, il était convaincu quand même que Dieu s'y prendrait d'une façon ou d'une autre, il ne savait pas comment. Sur Abraham, qui a eu cette délivrance. Derrière lui, l'agneau était retenu dans un buisson. Passons à Jacob, je vous le cite simplement en passant. Jacob qui était terriblement éprouvé. Jacob qui pense avoir perdu Joseph définitivement, puisque ses fils lui ont dit qu'une mauvaise bête l'avait dévoré, et puisqu'il a vu la robe sanglante de son fils, cette robe bigarrée qu'il avait donnée à son fils. Jacob apprend finalement de la bouche même de ses enfants criminels, il apprend que Joseph vit encore, que Joseph est en Égypte et que Joseph l'attend. Son cœur reste d'abord froid. Puis, quand même, en voyant les chars du Pharaon que le roi d'Égypte a envoyés pour le transport de Jacob et de tous les siens, son cœur se réchauffe et il décide de partir. Chapitre 46 de la Genèse, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Verset 2. Et Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Et qu'est-ce qu'il répond? Me voici. Me voici. Lui qui a hésité, est-ce que je dois partir? Est-ce que c'est vrai ce que mes fils m'ont dit? Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu de qui? Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham. Ne crains point de descendre en Égypte. Car je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Hein, quand vous devez prendre une décision et que vous hésitez encore, parce que vous vous demandez quand même comment cela pourrait finir, eh bien, le Seigneur vous dit, moi-même, je descendrai avec toi et moi-même, je t'en ferai remonter. Donc, ça ne serait pas fini par la mort de Jacob. Vous savez que Jacob est mort en Égypte, mais que son corps a été ramené dans la caverne de Macpéla. Et Joseph te fermera les yeux. Ah, quand on peut répondre au Seigneur, me voici, quelle que soit sa volonté, même s'il y a des inconnus. J'ai dit que Abraham avait peut-être 115 ans, 120 ans, quand il a été appelé à offrir son fils en sacrifice, puisqu'il a eu son fils à 100 ans et que Isaac n'était plus un jeune garçon, mais était déjà un jeune homme. Quel âge avait Jacob quand il lui a parlé, quand Dieu lui a parlé? Lisez le chapitre 47 de la Genèse. Jacob est devant le Pharaon maintenant, il est en Égypte. Et Jacob répond au Pharaon,
quand Pharaon lui dit, quel est le nombre des jours, des années de ta vie? Jacob répondit au Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années d'Abi de mes pères. Il a 130 ans. Et à 130 ans, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Comme il a parlé à 75 ans, il parle à quelqu'un à 130 ans. Et à 130 ans, on obéit. N'attendez pas d'avoir 130 ans pour obéir. Le Seigneur vous parle aujourd'hui 13 mai. Ne lui direz-vous pas, me voici. Malgré toutes les inconnues, me voici. C'est cela qu'il attend. Lui vous dit, me voici, je suis là. Alors, puissiez-vous lui dire, me voici. Prenez maintenant Moïse. Moïse est un homme déçu. Il a 80 ans. À 40 ans, alors qu'il était en pleine force, il a voulu délivrer son peuple. Du joug des Égyptiens, il a raté son coup. Il a tué. Et vous savez, quand on a tué, c'est vraiment raté. On l'a vu au Québec. C'est affreux. C'est affreux. Eh bien, Moïse a tué. Et à 40 ans, il doit fuir pour ne pas faire la prison. Pour ne pas être exécuté. Il doit fuir au pays de Madian. Et là, bien sûr, bon, il refera sa vie. Mais ce n'est pas la vie qu'il voulait. Et à 80 ans, alors qu'il est berger de son beau-père, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent. Vous voyez l'idée du buisson, le buisson où l'agneau est retenu par les cornes. Et puis, ça c'est pour Abraham, hein, le buisson où Moïse entend la voix de l'Éternel. Moïse, Moïse, chapitre 3 de l'Exode. Et il répond, me voici. Ôte la sandale de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. Et le Seigneur lui parle. J'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu leur soupir, je suis descendu. C'est le jour, me voici, me voici. Et c'est toi que je vais employer, justement. Il a 80 ans. Il n'attend plus rien. Et il vivra encore 40 ans. Et c'est lui qui sortira le peuple. Oh, que dans ce 13 mai, vous puissiez dire, c'est mon jour à moi, le jour de la décision devant le Seigneur. Puis vous verrez que ce n'est pas seulement à des hommes de 75 ans, ou à des hommes de 130 ans, ou à des hommes de 80 ans comme Moïse, que Dieu parle. Je pense maintenant au petit Samuel. Samuel était un jeune enfant qui avait été demandé à l'Éternel par sa mère Anne, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle crie au Seigneur. Les premiers chapitres de Samuel, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et quand elle est exaucée, eh bien, elle accomplit ses vœux. Je ne sais pas si vous avez aussi une hésitation au sujet de vos enfants. Comment les élever, comment les éduquer? Je l'ai promis à l'Éternel, le Seigneur me l'a donné, eh bien je veux qu'il puisse un jour te servir. Verset 18, il est dit que l'enfant Samuel, chapitre 2, faisait le service devant l'Éternel. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe, elle la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Chaque année, l'enfant grandissant, il fallait une robe nouvelle. Bien, sa mère continuait de s'occuper de son enfant. Puis voilà le chapitre 3. Le jeune enfant, Samuel, était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir des yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. À la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Mais voilà, lui ne sait pas que c'est l'Éternel. Il est encore un enfant, et un peu plus loin, il est dit qu'il ne connaissait pas, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Il est un enfant, et puis Dieu peut déjà parler à un enfant. Alors que l'enfant ne connaît pas encore l'Éternel. Le Seigneur lui parle. Et nous parlions, je crois, hier avec un ami, de ce que le Seigneur peut faire par des enfants qui ne connaissaient pas encore le Seigneur d'une façon profonde et complète. Mais l'enfant qui supplie ses parents peut-être de venir à une réunion, parce que lui a trouvé déjà son plaisir dans ses réunions, c'est déjà la voix du Seigneur. Samuel croit que c'est Élie qui l'appelle. Il va deux fois vers Élie. Et Élie finalement lui dit, bien, si la voix se fait encore entendre, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce que fit Samuel. Donc, vous voyez que Dieu peut vous parler à tout âge. Soyez dans cette disposition. Maintenant, prenez Ésaïe. Je cite en passant au chapitre 6. Ésaïe, qui a reçu la vision de la gloire du Seigneur et en même temps une conviction profonde de péché, Ésaïe, qui, voyant la gloire du Seigneur, s'écrit au chapitre 6, malheur à moi, je suis perdu. Pourtant, Ésaïe était un prophète. Malheur à moi, je suis perdu. Mes lèvres sont impures. Je ne sais pas si vous avez une grande conscience de péché, mais Ésaïe, lui, ce qui lui apparaissait, c'est qu'il avait les lèvres impures. Tout ce qui était sorti de ses lèvres n'était pas pur. Je ne sais pas si vous sacrez encore, mais enfin, ce sont des choses qui doivent disparaître. Et tout à coup, on est convaincu, mais ce que je pense que je serai devant Dieu, puis j'ai dit ça, je dis cela encore, je laisse passer ces mots sur mes lèvres. Seigneur, délivre-moi, je suis un homme aux lèvres impures. Et le Seigneur répond, il a un moyen de purifier les lèvres d'Ésaïe. Expiation est faite pour ton péché, quel que soit ton péché, même le péché de tes lèvres, tu es pardonné. Le charbon a touché ses lèvres. Et puis juste après cela, alors qu'il se disait, moi, qui est les lèvres impures, qui habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, parce que tous ceux qui sont autour de nous, ils parlent comme ça, c'est leur genre, alors on ne peut pas mieux parler qu'eux. C'est habituel, c'est passé dans les mœurs, il n'y a pas de mal à ça. Eh bien, Esaïe a maintenant les lèvres purifiées, puis tout à coup il entend, « Qui enverrai-je et qui ira pour moi ?» Et qu'est-ce qu'il dit? Il est tellement libéré et purifié de son passé, qu'il dit, me voici, envoie-moi. Vous ne trouvez pas c'est merveilleux? Me voici, envoie-moi. Mes lèvres ont servi à dire des impuretés, à sacrer contre le nom de Dieu peut-être. Mais ces lèvres maintenant peuvent louer l'Éternel, peuvent apporter un message de salut. Ne soyez pas liés par votre passé. Dites-vous, Seigneur, tu peux. Tu peux tout. En ce jour-là, vous saurez que c'est moi. Et je vous ferai connaître mon nom. Et je dis, me voici. Ésaïe a connu cela. Maintenant, juste deux exemples dans le Nouveau Testament. J'en donne qu'un. Dans les Actes des Apôtres, d'abord, pour clore le septième exemple par le Seigneur Jésus lui-même. Ananias. Un homme de Dieu. Vous savez quelle ville il habitait? Une ville qui fait souvent la manchette des journaux. Damas. Ananias est un croyant à Damas. Il est un des anciens de l'église de Damas. Et Damas est dans la terreur. Quelle terreur! Les croyants de Damas, les chrétiens de Damas sont dans la terreur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un certain Saul de Tarse, meurtrier qui a condamné Étienne, un homme de Dieu à Jérusalem, qui respire la menace, la vengeance, vient à Damas pour emprisonner les chrétiens. Et voilà qu'Ananias ne sait pas ce qui s'est passé à midi sur le chemin de Damas. Il ne sait pas que cet homme dont il a tellement peur depuis 3 jours, qu'est-ce qu'il fait, cet homme dont Ananias a peur? Qu'est-ce qu'il fait? Il est aveugle. Et puis qu'est-ce qu'il fait dans son aveuglement? Il prie, il prie, il est là dans une maison de la rue appelée la droite, et il prie, et il attend qu'on vienne lui donner la réponse. Ananias, et qu'est-ce que dit Ananias, chapitre 9 déjà? Me voici, ah, on est toujours, on sait que tu parles, me voici, bien bas, dans la rue, et qui est appelée la droite. À Damas, va y trouver un homme, Saul de Tarse. Je lis verset 9. Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a eu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répond, Seigneur, il a dit, me voici, Seigneur, me voici. Et pourtant, quand le Seigneur lui dit ce qu'il a à faire, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Et Ananias obéit. Mais il a dû recevoir cette explication du Seigneur. Nous sommes des gens qui disent, nous voulons être à ta disposition, Seigneur. C'est bien, hein? Vous voulez être à la disposition du Seigneur pour votre mission. J'en suis heureux. Mais soyez aussi prêts à ce que lui va vous demander. N'y allez pas gonfler avec vos prétentions, avec vos certitudes charnelles, mais allez à lui en disant, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, donne-moi de t'écouter comme Samuel parle, Seigneur, ton serviteur écoute, pour que ce que je dirai soit vraiment ce que j'ai entendu de toi. Et alors, le principal qui nous enseigne au sujet de ce me voici, c'est qui? C'est le Seigneur. Chapitre 10 des Hébreux. Il est dit, citant le psaume 40, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, tu n'as pas pris plaisir au sang des taureaux et des boucles. Alors j'ai dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ta loi est écrite au-dedans de mes entrailles, chapitre 10. Je suis venu au Dieu pour faire. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus pour nous sauver est descendu. C'est ainsi que nous pouvons célébrer la naissance du Seigneur. Il est venu. Pourquoi est-il venu? Parce qu'il a dit, son commencement n'était pas à la crèche. Il était dans le ciel de gloire. Et il dit, me voici, et il accepte qu'un corps lui soit formé dans le sein de Marie, la mère bénie de notre Seigneur, et il entre dans ce monde où il est couché comme un petit enfant dans une crèche. Mais il est venu pour faire la volonté du Seigneur, et cette volonté commence à la manifester en étant soumis à son père et à sa mère, terrestre. Puis, quand il commence son ministère à la femme samaritaine, à laquelle il parle, quand la femme est partie, touchée par la grâce de Dieu, ses disciples viennent et voudraient le faire manger. Jésus dit, j'ai une nourriture que le monde ne connaît pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans son ministère, celui qui a commencé en disant « Je viens pour faire ta volonté », il continue de faire la volonté de Dieu. Il en fait sa nourriture, ma viande, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Et finalement, regardez la Gethsémanie. Quand il a devant lui la croix, il est là dans cette sueur sanglante et dit « S'il était possible que cette coupe passe loin de moi », que dit-il ensuite ?« Toutefois, non pas ce que je veux. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est à ce moment-là, quand il a pu accepter la volonté de Dieu. Voyez-vous, mes amis, frères et sœurs, qui que vous soyez, c'est au moment où vous pouvez dire que sa volonté soit faite, que vous aurez la délivrance. Pas la vie. Tant que vous lutterez, vous serez comme Jacob, à vous épuiser le jour où vous accrochez au Seigneur. Vous avez la bénédiction et la victoire, même si vous boitez. Ce qui vous rappellera toujours que vous avez vu. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme tourmentée, elle a été délivrée, elle a été libérée. Que cette journée soit la journée de votre libération dans le Seigneur, et que vous puissiez comprendre maintenant qu'il n'y a qu'une seule délivrance. Cette délivrance qui nous vient quand on accepte Jésus dans notre cœur. Et puis alors vous irez à Pentecôte. Pentecôte, 10 jours après l'Ascension. Et qu'est-ce qui se passera là? Pourquoi est-ce qu'on célébrait Pentecôte en Israël? C'est parce qu'à Pentecôte, on se rappelait que Dieu avait donné 50 jours après la Pâque, après la délivrance d'Égypte. Qu'est-ce qu'il avait donné le jour de Pentecôte? La loi. Ils étaient au Sinaï le jour de Pentecôte, c'était le don de la loi. Mais cette loi, si vous êtes encore sous la loi, combien vous devez être malheureux. Dans la nouvelle Pentecôte, la Pentecôte chrétienne, qu'est-ce qui se produira? Ce n'est pas la loi qui sera donnée. C'est l'Esprit Saint qui seul peut accomplir la loi. Parce que si vous êtes encore sous la loi, sous cette idée, si je me convertis, si je me donne au Seigneur, je devrais faire ceci, je devrais faire cela. Et vous êtes sous la loi, vous êtes sous la malédiction, vous dites non, non, je veux pas ça, je vais m'adresser ce que je suis. Ah, mes amis, ce qu'il vous faut connaître, c'est la vraie Pentecôte. Le Saint-Esprit est donné à ces quelques disciples, et ils ont la force, eux qui avaient tant de crainte, d'apporter un témoignage. Pierre, qui avait renié son maître avec imprécation, qui avait blasphémé, qui avait sacré, je ne connais pas cet homme, Pierre est employé par Dieu pour annoncer l'Évangile. Et bien que cet Évangile puisse pénétrer nos cœurs et que vous puissiez, dans cette semaine qui vient, repasser dans vos cœurs ces quelques pistes de réflexion que j'ai essayé de mettre devant vous et qui m'ont été inspirées tout à l'heure pendant que notre frère lisait le chapitre 51, 52 d'Ésaïe, le verset 6. En ce jour-là, jour de la fête des mères, en ce jour-là, vous connaîtrez mon nom. Et celui qui dit que c'est moi, qui dit me voici. Seigneur, que ta grâce nous soit donnée et que ce 13 mai soit pour nous un jour qui marque notre existence pour la terre et pour le ciel. Car nous savons qu'ici-bas, nous ne faisons que passer. Et nous voudrions qu'il y ait plus qu'un passage, mais que nous ayons aussi, lorsque nous devons quitter ce monde, une riche entrée dans le royaume éternel de notre Dieu et de notre Père. En Jésus-Christ. Amen.